7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue. 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, étudier et travailler au Canada, un nouvel Eldorado, grand point d'interrogation. En tout cas, loin du marasme de l'Europe, avec une croissance économique et démographique, on va dire, rassurante, des réserves énergétiques colossales, le Canada apparaît plus que jamais comme une troisième voie, ouverte aux étrangers, moins dure peut-être que la société américaine. Mais derrière ces clichés, quelles sont les véritables conditions de la réussite au Canada? Quels sont les territoires, les villes qui offrent de véritables opportunités d'études et professionnelles? Et pour quel profil? Environ 280 000 migrants partent chaque année travailler ou étudier dans l'un des plus vastes pays au monde et l'un des moins peuplés, 36 millions d'habitants. De quoi emballer les imaginations, évidemment. Étudier ou travailler au Canada, en tout cas aujourd'hui chez 7 milliards de voisins, c'est le moment de poser toutes vos questions ou de partager vos expériences aussi, si vous avez déjà entamé des démarches ou si vous séjournez en ce moment même au Canada. Notre numéro de téléphone est toujours le même, le standard 33 1 84 22 71 71. Dans le studio de RFI, Reynald Gilbert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ministre conseiller à l'ambassade du Canada en France. En gros, vous êtes le monsieur Visa.
Monsieur Visa.
Et vous êtes également d'ailleurs responsable des programmes d'immigration pour le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. Vous devez être un homme très courtisé, non?
Effectivement, il y a beaucoup d'intérêt.
Armelle Duguet, bonjour.
Bonjour.
Directrice de la mobilité et des partenariats de l'Office franco-québécois pour la jeunesse, qu'on appelle l'OFQJ. Et d'ailleurs, vous êtes française.
Oui, oui, oui.
Vous française. Connaissez bien le Québec.
Oui, oui.
Et donc, vous nous parlerez des programmes aussi et de ce à quoi peuvent aspirer les francophones qui ont un désir de projet au Canada. Voilà, 33 1 84 22 71 71. Je vous lis un ou deux messages qui nous sont parvenus sur les réseaux sociaux, puis je vous lirai aussi tout au long de l'émission des questions. Dany, qui est dans le Nord Kivu, en République démocratique du Congo, nous dit « Moi, j'ai l'impression que les gens sont intéressés par le Canada parce que ce pays semble avoir une politique moins répressive à l'égard des immigrés et la densité de la population est encore faible. Ces deux facteurs différencient le Canada des États-Unis et des pays d'Europe où les politiques locales sont hostiles à l'égard des étrangers. » Vrai, faux, un peu des deux?
Un peu des deux. Effectivement, le taux de criminalité est relativement bas au Canada, de façon générale, mais il y a aussi des grandes villes, il ne faut pas oublier. Donc, c'est pas toujours les grandes plaines et les grandes forêts.
Abdoulaye, qui est au Mali, est-ce que le Canada risque de changer sa politique et chasser les immigrés un jour, comme le font certains pays?
Je ne peux pas concevoir ça viderait la moitié de la population.
En tout cas, vous nous appelez pour vos questions précises, si vous avez des projets au Canada, au 33 1 84 22 71 71. Reynald Gilbert, donc ministre conseiller à l'ambassade du Canada en France avec mandat sur l'immigration pour l'Afrique subsaharienne et le Maghreb. La crise des subprimes en 2008, l'arrivée de la crise économique en Europe, ont-elles rendu le Canada plus attractif, on dirait, ces dernières années, ces cinq dernières années? Vous êtes en poste en France depuis 4 ans.
Depuis 4 ans. Effectivement, je crois qu'on est plus attractif parce que la crise a beaucoup, beaucoup moins frappé au Canada. Il faut dire que, comparé aux États-Unis, si je trouve un point de comparaison, les banques canadiennes étaient beaucoup plus solides, le sont toujours, je crois. Et donc, on a eu beaucoup moins de difficultés économiques. Le taux de chômage n'a pas augmenté de façon faramineuse. Il a augmenté, mais il a redescendu peu de temps après.
Vous êtes au global à 7%
de... Global, 7%
chômage.
Mais ça va entre 4 et 13-14%, dépendamment de l'endroit. Donc, il y a beaucoup de différences.
Armelle Duguet, vous avez senti un mouvement, un frémissement, un engouement dans les demandes de réunions, d'informations, etc., à l'Office franco-québécois pour la jeunesse,
hein? Ah oui, oui, c'est plus qu'un frémissement, vous le disiez, un véritable engouement. On a d'ailleurs réorganisé notre centre de ressources, nos séances d'information. Les chiffres ont tout simplement doublé, hein, en termes de dépôts de projets, de demandes de mobilité depuis 2008.
C'est ça, pour les programmes de l'Office franco-québécois.
Pour les programmes de l'Office franco-québécois, pour la jeunesse d'une part, mais pour les demandes d'information de manière générale, puisqu'on donne de l'information sur la mobilité globalement, même si au bout du compte, le participant ne transforme pas à travers...
Et pour les demandes de visa, pour vous, Réginald Gilbert?
Demande de visa, c'est quand même, il y a une tendance lourde, parce que depuis une dizaine d'années, le nombre d'immigrants français, je prends cet exemple, a doublé. Donc, et nous avons augmenté le nombre d'immigrants que l'on sélectionne. Dans nos séances d'information, les demandes d'information, là encore, ça a littéralement explosé. Nous avons certains, il y a plus d'étudiants chaque année, plus de demandes de travailleurs et plus de demandes d'immigration à chaque année. Ça, c'est constant, mais depuis 3 ou 4 ans, c'est effectivement...
Donc, à chaque fois, il faut des salles toujours plus grandes pour accueillir, pour répondre aux questions?
Salles plus grandes, mais on fait aussi des conférences web depuis la dernière année, ce qui nous permet d'atteindre des gens un peu partout sur la planète. D'ailleurs, on en faisait une ce matin. C'est ça, on a des gens dans une quinzaine de pays qui assistaient.
Les candidats à un séjour au Canada, que ce soit pour des études, pour le travail, sont-ils dans l'ensemble bien informés ou pas, avec l'explosion justement des sites Internet, d'informations? Régine
Lal-Gilbert. C'est difficile à dire. Il y a beaucoup plus d'informations disponibles, mais il y en a peut-être, il y en a tellement que les gens s'y perdent souvent. Donc, lorsque on parle aux candidats potentiels, très souvent, la plupart du temps, ils nous posent des questions dont la réponse est déjà sur nos sites web.
Oui, c'est ça, mais des questions évidentes.
Questions évidentes. Et après ça, une fois que les questions évidentes ont été répondues, là, on entre dans le plus pointu.
Déjà, il faudrait que les gens qui s'intéressent au Canada, qui ont un projet de vie au Canada, connaissent bien la géographie canadienne. C'est pas le cas. Si on fait un sondage dans la rue, tout le monde connaît bien globalement à peu près la géographie américaine. La géographie du Canada, les provinces, etc. C'est quand même un peu le grand flou, non?
Non, c'est le grand flou. Pour beaucoup de gens, le Canada, c'est Montréal. Pour certains, c'est un peu plus grand. Ça va le Québec. Et après ça, on a quelques grandes capitales, Toronto, Vancouver, depuis les Olympiques, qui est plus connu, ou les grandes places de l'Ouest, où on a du pétrole, mais c'est beaucoup plus que ça.
Armelle Duguay?
Oui. Alors pour nous, le Canada, c'est le Québec. Les jeunes savent d'emblée, parce que c'est une province francophone, parce qu'il y a un office bigouvernemental, en plus de mobilité.
Le Canada mène donc une politique d'immigration choisie. Comment ça se traduit concrètement pour les candidats à l'immigration, Rénal Gilbert?
Les candidats à l'immigration, nous avons, c'est sûr qu'on a choisi un certain nombre de réfugiés, il y a de la réunification familiale, mais à peu près 65% des immigrants qui vont au Canada, sont choisis selon des critères de sélection qui sont basés en grande partie sur leur capacité à pouvoir s'intégrer rapidement sur le marché du travail. Donc, souvent des jeunes, c'est l'âge des candidats, leur niveau d'études, leur expérience de travail, souvent s'ils ont déjà étudié ou travaillé au Canada, sont des critères très importants. Mais le critère qui donne le plus de points sur nos grilles de sélection, c'est la connaissance de l'anglais et du français. Donc, pour quelqu'un qui parle couramment français, il a un avantage sur la grande majorité de nos clients dans le monde entier.
Donc, le jackpot, c'est bilingue, jeune, qualifié, expérimenté.
Exactement.
Ça, c'est vraiment le profil à 100%. On disait juste avant le démarrage de cette émission, on a 280 000 migrants qui partent chaque année. Et vous nous disiez que vous vous attendiez là pour 2015-2016 à encore une augmentation?
C'est une augmentation. Depuis les deux dernières décennies, on acceptait autour de 250 000 personnes. Mais les deux dernières années, nous avons augmenté le nombre de migrants parce qu'on perçoit que c'est quelque chose qui va être nécessaire pour que notre marché du travail continue à prendre de l'expansion.
Et pour la croissance économique?
Pour la croissance économique, c'est vraiment, contrairement, je pense, à certains autres endroits, nous voyons toujours les nouveaux arrivés comme étant un potentiel de croissance économique.
Donc là, vous attendez 285 000, voire plus?
Voire plus, ça c'est pour 2015. 2016, on ne sait pas encore. Nous ajustons à chaque année la cible, mais ça varie très peu parce que lorsqu'on fait des sondages auprès des Canadiens, la plupart disent, présentement, nous avons à peu près le bon niveau d'immigration.
Ça veut dire que ce sont des chiffres, là, dont vous nous parlez, que le Canada n'a jamais connu.
N'a jamais connu, sauf au début du siècle dernier, parce que faut dire qu'on a déjà eu des politiques de migration au début du 20e siècle, où on recevait ce nombre d'immigrants, mais ça a duré quelques années seulement.
Alors, est-ce que les Français sont privilégiés par rapport à d'autres nationalités, Armelle Duguay, s'ils ont un projet d'études ou de travail au Canada?
Oui, alors sur le Québec, il y a des accords particuliers, effectivement, qui sont incitatifs pour les études, notamment, on le sait, il y a eu le débat sur les frais de scolarité, mais ça reste quand même toujours attractif pour les étudiants français. Sur la mobilité professionnelle, le fait qu'il existe un office de de mobilité franco-québécois, c'est aussi un avantage pour les jeunes français, c'est évident.
Ça veut dire que concrètement, vous aidez des jeunes à entrer en contact avec des entreprises au Québec s'ils le souhaitent, hein?
Oui. Alors sur la mobilité étudiante, tout est structuré. Nous, on intervient plus sur un cofinancement et puis un accompagnement administratif et logistique. En revanche, pour la mobilité professionnelle, nous avons par exemple un programme dédié pour les demandeurs d'emploi, jeunes diplômés ou demandeurs d'emploi, une banque de stages avec à peu près 300 offres de stages chaque année à pourvoir. Donc, et des financements liés. Le gouvernement français finance cette mobilité. Les collectivités territoriales financent également dans le cadre des coopérations décentralisées. C'est sous forme de stages qui sont considérés comme de la formation professionnelle continue. Donc c'est acquérir une expérience professionnelle. Et on le sait, vous le disiez, Anne Gilbert, le fait d'avoir une première expérience peut faciliter après une mobilité plus longue. Et on sait que nos jeunes aujourd'hui sont très avides de mobilité, que ce soit au Canada par la suite ou ailleurs, c'est une première expérience très riche.
Vos questions, vos témoignages, si vous êtes déjà au Canada peut-être et que vous êtes en train de vous réveiller, vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Et pour tous les autres, ce sont des questions sur des projets d'études ou de travail au Canada.
Je suis pas un cowboy, mais j'aime ce putain.
Blanche et 7 milliards de voisins, je suis pas un cowboy, je le dis mal sûrement. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Nous faisons le point sur tous ceux qui ont des projets de départ, d'études, de travail au Canada. C'est vrai que ce pays, depuis notamment les crises financières économiques en Europe, les récessions économiques, vous nous le disiez, Réginald Gilbert et Armelle Duguay, la très forte attractivité qu'exerce le Canada, qui a toujours d'ailleurs, ceci dit, exercé une attractivité, parce qu'on est sur le continent nord-américain. Néanmoins, on peut se poser la question, savoir si le Canada apparaît aux yeux des étrangers comme un nouvel Eldorado, et puis on essaye de faire la part des choses aussi, peut-être, et de démystifier certains mythes. Nous accueillons une auditrice qui nous appelle au standard au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Mémouna.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Mémouna, vous avez 30 ans, je crois que vous êtes aujourd'hui en formation en France pour être conseillère en insertion, et vous avez eu un petit parcours au Canada, racontez-nous.
Alors en fait, moi j'étais au Canada en 2010-2011 avec un PVP, et donc j'étais à Toronto, et puis en fait j'ai travaillé chez Via Rail Canada.
qui est le SNCF canadien, c'est ça?
Exactement, oui. Mm-hmm. Et donc j'ai une très bonne expérience dans le domaine, mais en fait, moi, j'avais pas la volonté de travailler dans ce domaine-là. Donc, c'était juste un travail d'appoint. Et moi, en fait, je souhaitais faire une formation dans le domaine de l'accompagnement. Et avec mon visa, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas possible, en fait, parce que toutes les formations étaient payantes. Hein. Donc, en fait, j'ai dû revenir en France.
C'était pas un problème de visa, en fait, là. C'était un problème de coût des études.
Déjà, oui, voilà, coût des études, déjà dans un premier temps. Et le visa en lui-même n'était valable que un an. Donc, je n'aurais pas forcément eu la possibilité de rester plus longtemps.
Oui.
Donc, moi, j'ai décidé, en fait, de revenir en France, de me former et de repartir, justement, pour travailler dans le domaine dans lequel je suis en train de me former actuellement.
Oui, et vous souhaiteriez insister sur quel point dans votre témoignage? Vous avez une question précise à nous poser, Maimouna?
Alors oui, alors moi, en fait, ma question, en fait, c'est de savoir quelles sont les possibilités, en fait, professionnelles qui s'offrent, à moi, notamment au Canada, dans le domaine de l'accompagnement social, pour accompagner les jeunes français qui viennent s'installer au Canada. Qu'est-ce qu'il y a comme possibilités professionnelles au Canada?
Oui, parce que je crois que vous vouliez aussi nous interroger sur la politique des quotas qui font partie
Exactement,
de la politique
oui.
globale de l'immigration choisie au Canada.
Oui.
Alors, Réginald de Gilbert, est-ce que vous pouvez répondre à Maimouna, peut-être plus globalement d'abord sur les politiques de quotas, parce que pratiquer une politique d'immigration choisie comme le fait le Canada, c'est pratiquer une politique de quotas. Par secteur, comment ça fonctionne?
Il n'y a pas vraiment de secteur, donc à préciser. Il y a deux types de choses, ce dont parlait l'auditrice. Il y a un quota pour certains programmes de mobilité des jeunes. Donc, c'est le seul endroit où vraiment il y a un quota. Sinon, on vise une cible globale pour toute la planète, donc ce n'est pas par nécessairement par pays, ni par secteur. Étant donné qu'on sait que une des possibilités, c'est que les employeurs canadiens fassent des offres, donc c'est le marché qui décide plus ou moins dans ce sens-là. Et pour tous les autres secteurs, ce sont des personnes qui rencontrent les critères dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais on ne fait pas de recherche précise pour un secteur, parce que très souvent, ce qui arrive, c'est que dans le courant du processus, il y a un changement qui se fait. Il y a quelques années, on avait une liste d'occupations. Je me souviens encore, au début des années 2000, on cherchait des gens qui travaillaient dans les technologies d'information. Mmh. Le temps qu'ils arrivent au Canada, la bulle avait éclaté et on avait plein de gens qui avaient une expérience qui n'était pas requise à ce moment-là. Donc, on a plus ou moins laissé tomber ce côté-là pour regarder des formations plus généralistes. Mais lorsqu'on parle de plus pointu, tout simplement, c'est lorsqu'un employeur cherche quelqu'un et va le chercher avec une offre d'emploi d'un employeur canadien, c'est pas une garantie de pouvoir immigrer, mais ça aide énormément.
Mais alors, quelqu'un qui veut travailler dans l'accompagnement social, par exemple, est-ce que ça intéresse la politique d'immigration choisie du Canada?
On ne chercherait pas spécifiquement cette personne-là, pas plus qu'un médecin, un ingénieur ou quelqu'un dans quelques domaines que ce soit. Là où il y a certaines barrières qui existent, c'est lorsqu'on est dans des professions où il y a un ordre professionnel qui requiert une certaine formation. Et je ne sais pas dans ce cas-ci si c'est...
Et vous pensez à quoi, par exemple?
Par exemple, une infirmière française, une infirmière sénégalaise ou une infirmière chinoise, en arrivant au Canada, leur diplôme va être reconnu jusqu'à un certain point, mais il est fort probable qu'ils vont devoir faire une formation d'appoint, souvent sur les protocoles dans les hôpitaux, par exemple. Donc,
Alors, on a beaucoup de questions, évidemment, sur les visas. On ne va pas lire tout ce qu'il y a sur les sites Internet, notamment de l'ambassade du Canada, parce que c'est assez bien fait. Mais globalement, on peut dire qu'il y a, grosso modo, trois types de visas?
Trois types de visas. Quatre, si on inclut les visas de visiteurs, quelqu'un qui veut aller seulement visiter.
Oui, ce n'est pas le cas pour les Français, par exemple.
Ce n'est pas le cas pour
les
Français.
On peut aller en vacances au Canada sans visa.
Exactement. Mais on peut pas rester plus de 6 mois. Donc, le 6 mois dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est probablement
très longue vacances.
Sinon, ce sont les permis d'études, qui souvent permettent de travailler aussi, les permis de travail et les permis de résidence permanente.
Voilà. Alors, on va bien sûr en dire un petit peu plus dans la deuxième partie de l'émission. Surtout, vous restez avec nous, les voisins et les voisines, si vous nous écoutez. Armelle Duguay, Rénal de Gilbert, vous restez dans le studio de RFI. Nous serons en ligne également avec une jeune Française installée à Calgary, dans l'Alberta, donc pas une province très connue, qui anime le blog French with Benefits, et sans langue de bois d'ailleurs. 7 milliards de voisins, on se retrouve dans 3 minutes, juste après le flash.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez pour cette deuxième partie d'émission sur RFI. 7 milliards de voisins, étudier ou travailler au Canada, c'est une destination, c'est vrai, qui a le vent en poupe depuis plusieurs années, notamment à la faveur des récessions économiques en Europe. Reynald Gilbert, vous êtes ministre conseiller à l'ambassade du Canada en France et vous êtes aussi mandaté sur l'immigration en Afrique subsaharienne et au Maghreb. Et puis Armelle Duguet, vous êtes directrice de la mobilité et des partenariats de l'Office franco-québécois pour la jeunesse, l'OFQJ. Et quant à vous, les voisins, les voisines, bien sûr, vous pouvez poser vos questions en direct ou témoigner selon l'heure, si vous êtes déjà au Canada et que vous êtes réveillé. 33 1 84 22 71 71. Nous sommes en ligne à présent avec Lisa Janet, auteure du blog frenchwithbenefits.fr. Bonjour Lisa Janet.
Bonjour.
Votre nom sonne très nord-américain, mais vous êtes bien française. Vous avez émigré vers le Canada. Vous avez 29 ans, Toronto pendant 3 ans, léger retour en France et puis Calgary depuis 2014.
C'est ça. Moi, j'ai immigré en 2010 via le programme du Québec avec donc j'ai eu une résidence permanente. J'ai été à Toronto effectivement en 2010 pendant 3 ans où j'ai travaillé dans mon domaine qui est le digital, tout ce qui est médias sociaux, référencement web, etc. Et après un petit retour en France pour un contrat toujours dans ma branche, j'ai passé un entretien par Skype pour ma boîte actuelle à Calgary. Et là, de nouveau, je suis dans le digital, mais là, je travaille pour une université.
Vous aviez le sentiment en partant que le séjour au Canada, s'installer au Canada, vous correspondiez parfaitement au profil recherché, c'est-à-dire jeune, parlant anglais, maîtrisant bien les réseaux sociaux, les nouvelles technologies?
Oui, c'est ce que je me suis dit. Après, je pense pas vraiment qu'il y ait un profil type pour immigrer au Canada. D'ailleurs, on le voit dans la sélection des résidents permanents pour le Québec. En fait, il y a plusieurs profils, mais je me suis pas dit que j'étais un profil type. Après, effectivement, quand on parle couramment l'anglais et qu'on est jeune, je pense qu'on peut, on a toutes les chances de réussir en tout cas.
Et d'intéresser le Canada. Comment est née l'idée de ce blog French with Benefits?
Alors, l'idée, c'était pas du tout pour être un blog qui allait être visité à l'origine, parce que moi, je suis quelqu'un qui fréquente beaucoup les forums, et à l'origine, j'avais des copains qui écrivaient un blog pour parler des démarches qu'ils entreprenaient pour immigrer, et du temps que ça prenait.
Oui, c'est ça, de leur galère.
Voilà, c'est un petit peu ça. Et donc moi à l'époque j'ai fait ça également, et puis donc j'ai raconté toutes les étapes pour l'immigration, etc. Donc bien avant d'immigrer, au moins un an avant d'immigrer. Et puis après je me suis rendu compte qu'en fait personne ne parlait de Toronto, parce que tout le monde voulait aller au Québec, à Montréal ou au Québec. Et en fait nous, après avoir visité Montréal, on a décidé plutôt d'aller à Toronto.
Avec votre mari.
Avec mon mari, voilà, exactement. Et là, je trouvais aucune info sur Toronto, qui est pourtant la plus grande ville du Canada, mais absolument personne n'en parlait. Et quand nous, on disait aux gens qu'on voulait aller à Toronto, à l'époque sur les forums, et même aux gens qu'on connaissait à Montréal, tout le monde disait qu'on était fous, qu'il n'y avait rien à faire dans cette ville, c'était une ville super. Triste.
Alors justement, vous racontez le contraire sur votre blog sur l'immigration à Toronto et à Calgary, puisque finalement, vous expliquez bien qu'il y a peu de choix de ville. Il ne faut pas partir au Canada si on espère aller de ville en ville pendant des années. Le choix est assez limité. Vancouver, Calgary, Toronto, Montréal et oserais-je dire, écrivez-vous, Toronto en tout et pour tout, vous verrez que tout se rapporte à cette ville, malheureusement.
C'est vrai, c'est mon avis personnel, mais c'est la ville du business. C'est une ville qu'on appelle le petit New York, parce que finalement c'est le pendant américain. Mais effectivement, il y a beaucoup de sièges en fait qui étaient au Québec, qui sont maintenant venus à Toronto. Mmh. Donc, et il y a beaucoup de branches où on trouve du boulot qu'à Toronto. Bon, après, c'est vrai qu'il y a des beaucoup plus petites villes où il y a des boulots très spécialisés où on va trouver aussi. Mais pour donner toutes les chances, c'est vrai que, et si on parle anglais, parce que c'est quand même le souci de pas mal de Français, je pense que Toronto, c'est la ville de choix, ouais, ça c'est sûr.
Peut-être un mot sur la mentalité nord-américaine au boulot, vous qui êtes française, installée au Canada.
Ouais, c'est très différent parce qu'au Canada, il n'y a pas de confrontation directe avec les gens, donc généralement, on ne dit pas trop ce qu'on pense, on essaie de ne pas blesser l'autre. Il y a aussi l'histoire des heures de travail qui sont, on commence très tôt, mais on finit tôt aussi, donc on fait du 8h-16h, et en fait, tous les Canadiens sont généralement chez eux vers 5 heures. Est-ce qu'on s'occupe des enfants ou il y a une vie après le travail quoi, qui est très très importante.
À défaut d'avoir des vacances comme en France, on a une vie après le travail le soir.
Normalement, on a deux semaines, entre deux et trois semaines. Et tous les cinq ans, environ, on a une semaine en plus.
Lisa,
et on finit à cinq semaines.
Lisa Jeannet, ou Lisa Janet, comme on doit vous appeler sûrement au Canada.
Ouais.
Peut-être un dernier conseil pour ceux qui réfléchissent encore, pour les Français, mais aussi pour les francophones qui sont nombreux à vous lire.
Moi, je dirais de pas mal se renseigner avant, surtout d'immigrer, parce qu'il y a beaucoup de... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui croient que le Canada, c'est un peu comme ce qu'on voit à la télévision et qui ont l'impression que c'est un peu aussi ce qu'on voit dans les séries américaines. Ce qui est honnêtement pas le cas. Puis surtout, parler anglais. Moi, c'est vraiment quelque chose que je conseille. Et de pas uniquement parler français, même si on veut aller au Québec. Pour moi, ça limite les chances. Voilà.
Merci beaucoup, Lisa Jeannet. Et je rappelle le nom du blog qu'on peut consulter, où il y a pas mal de billets d'humeur. Frenchwithbenefits.fr. Très bonne journée à Calgary maintenant.
Merci, au revoir.
Calgary, en Alberta. Alors, que vous inspire ce témoignage, Rénal Gilbert?
Ça correspond à ce que beaucoup de gens vivent. Beaucoup de des nouveaux venus au Canada s'installent à un endroit et se déplacent au gré des emplois ou des opportunités qui s'ouvrent. Les gens sont tout simplement plus mobiles parce que les racines ne sont pas aussi profondes.
Ceci dit, sur la mentalité nord-américaine au travail, d'accord?
Mentalité nord-américaine au travail, il y a beaucoup de ça. C'est d'ailleurs le choc que quelqu'un comme moi qui vient travailler en France a. Effectivement, les semaines sont de façon générale plus longues, commencent plus tôt. Et se termine plus tôt.
C'est ça, les journées sont plus longues.
On a moins de vacances aussi, ce qui est quelque chose qui choque beaucoup
mais
de gens.
Toronto ou rien d'autre? Alors, elle a choisi de vivre à Calgary pour avoir du travail en Alberta, qui est quand même, effectivement pas une très grosse ville, mais d'accord ou pas avec ce jugement? Elle semble regretter finalement.
Je sais pas, moi je suis très pro-Toronto parce que j'ai été étudié là pendant un certain temps. Et puis, c'est effectivement le petit New York. C'est la cinquième plus grande ville en Amérique du Nord. C'est pas rien.
En fonction des territoires, les opportunités professionnelles évidemment sont différentes. Est-ce qu'on peut-être résumer ce qui s'offre aux migrants qui ont un projet de mobilité au Canada en fonction des zones, des provinces et en fonction du secteur dans lequel ils veulent travailler?
D'abord, je dois dire, c'est plus facile de partir une entreprise, c'est plus facile de se trouver un emploi parce que les taux de chômage sont beaucoup plus faibles. C'est beaucoup plus facile de perdre son emploi également parce que les niveaux de protection sociale n'est pas le même, ce qui fait que les employeurs engagent plus facilement, mais ça va dans l'autre sens. Quelqu'un qui parle français peut effectivement fonctionner très bien au Québec parce que c'est la langue de la majorité. Ailleurs, c'est vu aussi comme un avantage parce que lorsqu'on a le choix d'avoir quelqu'un qui est bilingue, surtout dans certains domaines, tout ce qui est éducation, santé, par exemple, ça offre des opportunités qui n'existeraient peut-être pas pour quelqu'un qui ne parle que l'anglais.
Alors, je lisais par exemple que sur la province de l'Ontario, donc les métiers les plus recherchés, donc là où il y a Toronto, les métiers les plus recherchés, soudeur, électricien, mécanicien, profession liée au service, à la clientèle, à la vente. C'est caricatural ou...
C'est vrai en grande partie parce que beaucoup de parents canadiens, comme beaucoup de parents un peu partout, veulent que leurs enfants aillent fassent de longues études et deviennent des professionnels, ce qui fait qu'on a toute une couche de métiers qui ont été peu valorisés dans le passé.
Donc des métiers qualifiés techniquement,
et
mais c'est pas des bacs plus 7 ni des bacs plus 5. Hein. Mais ça les candidats à la mobilité vers le Canada ne le savent pas forcément.
Non, ils ne le savent pas. C'est un petit peu mon rôle, un petit peu votre rôle, Armel, de faire connaître aussi qu'il y a des besoins un peu partout dans toutes les industries. Et dans certains cas, justement, être soudeur, c'est peut-être mieux que d'être...
C'est une opportunité.
Pour le Québec, alors. Armel,
oui. Je voulais réagir aussi sur ce que disait Lisa sur la question. Non, il n'y a pas de profil type. Effectivement, le Canada, le Québec, pour ce qui nous concerne, sont vraiment réputés pour être des territoires qui sont accueillants à partir du moment où vous avez une motivation, où vous êtes travailleur, vous avez des compétences, forcément, des compétences de base, mais nos Français, en tout cas, sont réputés pour avoir de bonnes formations, des formations solides. Après, si vous êtes en adéquation avec les besoins du marché, tout le monde peut tenter sa chance. Sur les secteurs qui recrutent, bon, il y a beaucoup, beaucoup de secteurs, ça fluctue énormément. Effectivement, il y a des demandes dans des domaines très, très qualifiés d'ingénieurs, dans le domaine de l'informatique, bon, le digital, évidemment,
voilà, le digital.
Jeux vidéo, une plateforme.
Mais ça,
Montréal.
Par exemple, le digital, les jeux vidéo, c'est où, par exemple?
À Montréal, évidemment, là.
Pour quelle raison?
Parce qu'il y a des incitatifs fiscaux très intéressants et pour les entreprises qui créent, qui viennent créer, créer une filiale ou leur propre boîte, hein. Et puis également pour les travailleurs, il y a vraiment vraiment des gros incitatifs. Dans d'autres secteurs moins, je veux dire, de la formation professionnelle et technique, par exemple, il y a des gros besoins. Et c'est vrai, vous le disiez à juste titre, ça n'est pas connu. La mobilité, en général, elle est plutôt pratiquée par une certaine élite, des jeunes qui sont formés au niveau supérieur. Et nous, notre rôle, notamment à l'OFQJ, c'est de dire la mobilité, elle est accessible à tous, pour tous. On doit pouvoir répondre
Mais
à
alors,
tous.
En même temps, vous nous disiez au début de l'émission, Réginald Gilbert, que bon, le taux de chômage, en moyenne, c'est 7%, mais d'une province à l'autre, c'est très variable, ça va de 4% à 13% de chômeurs.
Ou d'une ville à l'autre, parce que...
Même d'une ville à l'autre.
Par exemple, beaucoup de francophones s'établissent à Montréal, où le taux de chômage est le double de la ville de Québec, qui est seulement à 250 km de là.
Oui, mais en même temps, si on va au Saskatchewan, Regina, je crois que vous y avez vécu en plus.
Près de Regina,
voilà,
effectivement.
C'est pas un coin très connu.
Il y a une belle chanson d'ailleurs, Saskatchewan, vous allez devoir trouver ça.
On va peut-être chercher ça pour la prochaine fois, mais là, il y a très peu de chômage, autour de 4%.
C'est 4,5%.
Mais pour un migrant qui est candidat à un projet au Canada, est-ce que vraiment il y a des opportunités en
des
même
opportunités,
temps
mais faut
au Saskatchewan?
Il faut souvent être très souple et on ne va pas nécessairement travailler dans le domaine dans lequel on a étudié. C'est une des plus grandes frustrations.
Ça veut dire quoi, très souple? Prêt à monter sur le tracteur pour les grandes structures agricoles de blé, par exemple, au Saskatchewan?
Peut-être. Pendant un certain temps, le marché du travail fluctue énormément, beaucoup plus que c'est le cas en Europe. Donc, les gens doivent être très souples. Et c'est un peu un choc de plusieurs personnes. Ouais. Et parfois, une déception pour des gens qui ont effectivement étudié dans un certain domaine, qui voient qu'il n'y a pas d'ouverture immédiatement, mais il y a plein d'autres opportunités ailleurs. Donc, ils vont dans un autre domaine.
C'est vrai dans les deux sens d'ailleurs, parce que quelqu'un qui a fait des études très pointues, très spécialisées, doit pouvoir être flexible et occuper un poste qui sera pas forcément en totale adéquation avec sa formation, c'est évident. Mais c'est vrai dans l'autre sens, des jeunes qui n'ont pas eu des responsabilités mais qui sont vraiment motivés peuvent accéder à des postes auxquels ils n'auraient pas forcément pensé pouvoir accéder en France notamment. Hein.
Les besoins en tout cas sont immenses, énergie, mines, foresterie. Les besoins se chiffrent à 300 000 travailleurs au total. Vous confirmez ça?
Je confirme qu'il y a beaucoup de gens qui partent à la retraite. On a eu un baby boom très très pointu. C'est des gens qui sont maintenant dans la cinquantaine avancée, la soixantaine, et qui partent à la retraite et on cherche des gens pour les remplacer.
Et l'Alberta, dont on n'a pas encore parlé, évidemment, les gaz de schiste, est devenu un véritable Texas canadien. La province vit au rythme de l'or noir, issu des sables bitumineux à plusieurs centaines de kilomètres, donc au nord d'Edmonton, c'est ça. Mais là aussi, il faut savoir, comme vous disiez, être...
Oui, c'est bien
souple.
Ça. On parle beaucoup des sables bitumineux, mais l'Alberta produit beaucoup de pétrole conventionnel aussi.
Pas seulement les gaz
de schiste. C'est ça, ouais. C'est ce qu'on parle, mais dans le fond, il y a plus de...
Troisième réserve de pétrole, le Canada, la plus importante au monde, après l'Arabie Saoudite et le Venezuela. Ça aussi, il ne faudrait pas l'oublier. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Étudiez ou travaillez au Canada. Vos témoignages ou vos questions. Nous accueillons Abdel, qui est à Montréal, justement. Bonjour, Abdel.
Bonjour, Emmanuel.
Et merci de nous appeler de si bon matin.
Ça me fait plaisir de parler avec vous quand vous parlez d'un sujet qui me concerne personnellement.
Alors, nous vous écoutons.
Voilà, moi, vous imaginez, je suis au Canada, ça fait 7 ans déjà. Mais avant de venir au Canada, je suis déjà formé ingénieur depuis 20 ans.
Où ça?
En 2000, oui. Et je travaille aujourd'hui au Canada.
Mais vous veniez de quel pays, Abdel?
Je viens du Bénin, en Afrique. Et comme beaucoup d'immigrants, vous savez, il y a beaucoup d'informations. Mais le rêve américain, le rêve canadien qu'on nourrit avant de venir ici, ce n'est pas ce qu'on trouve sur place. Parce que quelle que soit la formation que vous avez, il faut que vous repreniez parfois à zéro pour s'adapter aux conditions d'ici avant de pouvoir intégrer le marché du travail. Et ce n'est pas toujours évident. Il y a le petit boulot pour tout le monde. Malheureusement, vous allez voir des ingénieurs qui sont travaillent au service à la clientèle, qui font dans les tasses, qui font dans les vrais petits boulots. Ce n'est pas agréable. Imagine les pays africains qui forment des cadres depuis 50 ans. Aujourd'hui, ils sont dépouillés parce que tout le monde veut aller en Occident.
Mmh. Bah, vous le preniez d'ailleurs, hein, je vous le dis tout de suite.
Oui. Malheureusement, on dépouille les cadres qui sont formés aujourd'hui pour aller remplir l'Occident qui a déjà tout fait.
Et quel serait le conseil que vous pourriez donner, puisque vous êtes installé à Montréal, à des compatriotes ou à d'autres jeunes qui souhaitent s'installer au Canada, qui nourrissent un projet et un rêve?
Moi, je crois que je n'ai pas de conseils pour eux, mais c'est malheureusement à nos dirigeants qu'il faut parler beaucoup plus pour savoir qu'est-ce que les gens vont chercher ailleurs. L'Occident veut aider l'Afrique. Est-ce que c'est vraiment une méthode de fouiller l'Afrique de ses cadres?
Oui.
Il faut qu'il y ait un problème grand qui soit pensé pour que le développement soit équilibré partout.
Ouais. C'est ça, vous resoulevez le problème de la fuite des cerveaux.
Oui, la fuite est vraiment une grande fuite de cerveau, parce que l'immigration au Canada, vous savez, c'est une immigration choisie. On ne veut pas prendre ceux qui n'ont pas encore travaillé, ceux qui n'ont pas de diplôme. Mais quand ils viennent ici, ce n'est pas pour intégrer le marché du travail dans leur domaine, c'est tout de suite là, mais c'est pour faire des petits boulots, pour se reconvertir dans d'autres boulots, pour aller s'occuper des personnes âgées partout. C'est vraiment dégueulasse. Malheureusement, nous sommes déjà dedans. Et quand il fait le pas à l'avant, c'est difficile de faire les retours.
Ouais, donc c'était plutôt un message pour vos gouvernants dans votre pays d'origine, si j'ai bien compris, plutôt qu'un message aux candidats au départ ou un message aux Canadiens. Oui, oui. Armelle,
c'est un message intéressant. C'est vrai que nous, on travaille, on ouvre l'expertise de l'OFQJ, puisque l'OFQJ a 47 ans maintenant d'existence.
Depuis 68.
Voilà, voilà. Et donc cet office de mobilité bigouvernementale, bon, son ADN aussi, c'est la francophonie en fait partie. Donc on s'est aperçu qu'on avait une mission auprès aussi des jeunes francophones qui sont sur le territoire français, qui veulent participer à ces mobilités, qui sont aussi au Québec. Et donc on a imaginé des programmes de coopération, alors pas forcément en termes de d'immigration, hein, mais justement de favoriser les échanges d'expertise, de compétences, de savoir-faire par des mobilités plus temporaire, mais qui permettent d'aller prendre la température et puis de favoriser des échanges qui nourrissent toutes ces cultures et qui permettent également sur les territoires avec des compétences qu'on peut acquérir pendant un certain temps de revenir sur son
Parce que si on est élu à l'un de ces programmes de l'FQJ, en plus on peut avoir un billet d'avion
payé, il y a des aides exactement avec en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères de la France. L'idée, c'est vraiment de se nourrir de toutes les compétences de la jeunesse francophone pour construire, contribuer à l'élaboration des politiques publiques ou des entreprises.
Nous accueillons Fénous qui nous appelle de New York. Bonjour.
Oui, bonjour Emmanuel.
Vous avez vécu 10 ans à Montréal.
Oui, depuis 98 jusqu'à 2000. Après ça, j'ai été à Dubaï pour les recherches de travail. Puis j'ai retourné à New York depuis 6 ans. Je travaille à New York et Dieu merci. Puis quand je suis au Canada, parce qu'ils ont besoin de la plupart des travails des études de haut niveau. Qui travaille comme l'informatique et les technologies, donc c'est très, mais une personne qui n'a pas au niveau, comme moi, j'ai fait les primaires et puis qui travaille dans les manufactures, etc., mais tu peux pas s'en sortir avec des taxes. Tu peux travailler à 10$ ou à 12$, puis tu peux pas s'en sortir 40 heures et puis tu peux pas s'en sortir avec les taxes que tu
à Montréal
les taxes 15%, parce que après la Première Guerre mondiale, ils ont fait les taxes provinciales et fédérales.
Vous soulevez en tout cas un problème intéressant. Merci de nous avoir appelé, Fénous. Il faut qu'on parle des études, il faut qu'on parle des diplômes, parce qu'aujourd'hui, c'est aussi une très grosse porte d'entrée vers le Canada.
C'est effectivement une très grande porte d'entrée. On a de plus en plus d'étudiants qui viennent au Canada. Il y a autour de 280 000 étudiants étrangers au Canada, dont
dans les universités canadiennes,
les collèges canadiens, dont une quand même une bonne proportion qui provient de votre auditoire. Donc à peu près 16 000 Français qui sont là, 2 000 du Maroc, 1000 d'Algérie, de Tunisie, beaucoup de Camerounais, des gens du Congo, donc d'un peu partout. Un des gros avantages pour les gens qui viennent étudier au Canada, c'est qu'ils ont aussi la permission de travailler pendant qu'ils sont là et accumuler de l'expérience qui parfois peuvent leur les mener
avec quel type de visa alors? Ça c'est le visa.
C'est un permis d'études lorsque c'est un programme d'études qui est plus d'un an permet de travailler jusqu'à 20 heures semaine et pendant les congés scolaires.
20 heures par semaine, donc avec le permis d'études.
Avec le permis d'études, donc on n'a pas besoin d'un permis de travail séparé. Là. Et c'est un permis ouvert qui nous permet de travailler dans tous les domaines qu'on veut.
Les droits d'inscription dans les universités. Alors là, si on revient sur la situation du Québec, donc principalement Montréal, Armelle Duguay, les frais d'inscription pour les Français viennent d'augmenter là ces derniers mois. Jusqu'à maintenant, pour étudier, par exemple, à McGill, par exemple, dans une autre université à Montréal, les Français payaient comme les Québécois. Quoi.
Oui, tout à fait.
Ça n'est plus le cas. Ils payent comme les Canadiens.
Ils payent comme les Canadiens, voilà. Ce qui est une augmentation, voilà. Ça va être pour les étudiants qui vont s'inscrire dans le premier et le deuxième cycle. Les troisième cycles ne sont pas touchés. Les frais de scolarité ont triplé. Mais il reste quand même intéressant par rapport aux étrangers, effectivement, par rapport aux étrangers qui n'ont... Il y a des accords, hein. Il y a quand même des accords avec d'autres pays, hein, mais ils sont toujours très privilégiés.
Ouais, il y a beaucoup de programmes d'échange aussi qui existent entre universités, des étudiants qui viennent un an au Canada ou qui viennent un an dans le pays hôte.
Alors, certes, les universités canadiennes sont moins chères, beaucoup moins coûteuses que les universités américaines. D'ailleurs, il y a des Américains qui viennent étudier au Canada,
beaucoup,
notamment à McGill. Est-ce que ça vaut le coup, finalement, en termes de qualité de l'enseignement, d'aller étudier dans les universités canadiennes? Quand on regarde, moi j'ai regardé le classement de Shanghai. Première université canadienne, 24e place mondiale, l'université de Toronto, 37e place pour l'université de Colombie-Britannique. McGill est à la 67e place. Franchement, on tombe de haut par rapport à la réputation. Les Canadiens communiquent beaucoup, par exemple, sur la qualité de l'université de McGill.
Mm-hmm. Non, alors... effectivement, c'est sûr, ça dépend toujours. On se compare avec le reste de la planète. Et dans les 67 universités qui sont devant, il y a probablement une cinquantaine qui sont aux États-Unis où ça coûte 3 fois, 4 fois, 5 fois plus qu'à McGill. Donc, en termes d'accessibilité.
Universités canadiennes parviennent pas, tout de même, pour le moment, à être dans la concurrence avec les universités américaines.
C'est très, très difficile. Des questions de coûts en grande partie. Le fait que les frais de scolarité aux États-Unis sont beaucoup plus grands, ils ont des fondations qui existent depuis très longtemps. C'est difficile de compétitionner. Ceci dit, McGill a une trentaine de prix Nobel qui ont étudié ou travaillé là, donc c'est quand même pas rien.
Il y a des bourses d'études pour étudier dans les universités canadiennes aujourd'hui?
Alors, il y a des bourses principalement données pour les Français par les collectivités territoriales. Voilà. Donc après, il y a des accords entre les universités qui minorent ces frais d'inscription, parce qu'à partir du moment où il y a un échange réciproque, c'est toujours minoré. Mais les bourses données par les universités canadiennes, je laisse Reynald.
Non, c'est quand même ça existe. C'est souvent pointu dans certains domaines. C'est plus limité qu'aux États-Unis, mais ça existe. Et pour les gens qui sont intéressés, il faut faire de la recherche pour savoir dans leur domaine c'est quoi les endroits où il y a des possibilités de bourse pour pouvoir étudier, payer frais de scolarité ou pour tout simplement les frais pour vivre au Canada. Ils sont habituellement moins grands aussi que dans d'autres endroits. C'est une chose qu'on sous-estime. Le coût de la vie, un appartement à Calgary ou un appartement à Paris, c'est pas du tout la même chose.
Les meilleures villes pour aller étudier, les villes où on trouve le plus de choix universitaires.
Ah, c'est bien entendu les grandes villes. Toronto a deux grandes universités. L'Université de Toronto qui est à 24e, d'après ce que m'avait dit.
Ah, c'est le classement de Shanghai,
moi, je dis rien. Sur mon mandat, mon ancienne université, Laval, qui a près de 50 000 étudiants quand même, dans la ville de Québec. Montréal, il y a 4 universités. Il y a des universités francophones au Québec, plusieurs, mais il y en a aussi à l'extérieur du Québec. C'est quelque chose que je voudrais souligner, qu'il y a aussi des communautés francophones à l'extérieur du Québec et où on peut étudier. Hier, j'étais avec un enseignant Université de Moncton, originaire de Lille et qui a immigré au Canada et qui enseigne maintenant à l'Université de Moncton en français. Donc, il y a des possibilités qui existent là.
Je voudrais vous lire la question de Gassim qui est à Conakry, en Guinée-Conakry. Je suis titulaire d'une licence de sociologie. Je ne compte pas m'arrêter là, mais malheureusement, le master de cette option n'est pas disponible dans mon pays. Je compte poursuivre mes études au Canada. Quelles sont les conditions pour y obtenir un visa d'études?
D'abord, il faut soumettre sa candidature à dans une université qui propose ce programme, une fois que la personne a été acceptée dans ce programme, il doit faire une demande de visa d'étudiant, et pour ça, il va devoir nous démontrer qu'il a été accepté à l'université un tel, et qu'il a aussi le financement pour pouvoir étudier.
C'est ça, les conditions de ressources.
Les conditions de ressources qui incluent aussi, on tient compte du fait qu'il peut travailler pendant qu'il est là, mais on tient compte aussi du coût de la vie, et va devoir démontrer ces ressources-là.
Mais un étudiant qui a une licence de sociologie, est-ce que ça intéresse des universités canadiennes? On parlait là, on disait il faut des métiers très qualifiés, le Canada manque pour sa croissance économique de compétences techniques, la sociologie?
On a besoin d'un peu de tout. C'est ça qui est très difficile à décrire. C'est presque toujours la première question qu'on me pose partout. Est-ce que vous avez besoin de gens dans tel domaine? Et c'est extrêmement difficile de répondre parce que c'est on a une société très très complexe qui a des besoins un peu dans tout.
On a eu beaucoup de messages aussi, et ça fait un moment. Hein. Je vous lis par exemple le message d'Issa à Bamako. Il y a des arnaques. En 2013, j'ai essayé de faire le parcours pour émigrer au Canada. Je me suis inscrit sur un site qui prétend faciliter les démarches. Ils m'ont renvoyé vers un prétendu représentant du Canada en Afrique. Ça n'était pas vous, donc apparemment. Je lui ai donné plus d'1 million de francs CFA, donc ça fait près de 1500 euros. Pour les soi-disant démarches, il ne m'a jamais aidé. Aujourd'hui, je lui envoie des mails, il ne répond jamais. Je crois que je me suis fait escroquer. Je pense, effectivement. Nombreux auditeurs soulèvent ce problème-là avec des adresses, des sites, des numéros de téléphone au Canada. Qu'en est-il? Que faites-vous?
Ah, c'est la seule information officielle provient du gouvernement du Canada. Il n'y a aucun facilitateur qui facilite, je pourrais dire. Il peut vous donner de l'information, mais lorsque...
Donc, ne pas payer des agences...
Ne pas payer d'agence, c'est la façon, bien sûr, de ne pas se faire arnaquer.
Et aller sur les sites officiels.
Aller sur les sites officiels, c'est la seule façon.
Ambassade du Canada, dans votre pays ou dans un autre. Merci à vous, Reynald Gilbert, ministre conseiller à l'ambassade du Canada en France, et également mandaté pour l'Afrique subsaharienne et le Maghreb. Armelle Duguay, directrice de la mobilité des partenariats de l'Office franco-québécois pour la jeunesse. À demain, les voisins.